Il y a une propagande depuis de nombreuses années maintenant autour du fait que la dématérialisation est écologique en fait. Donc il faut aussi déconstruire ce mensonge.
D'où le fait aussi de prendre la critique. Nous, on a trouvé au niveau du comité 15 juin par exemple que c'était plus facile de porter la critique sur le plan de la matérialité que sur les autres aspects. Si tu écoutes ce qui se dit dans la société, donc tu vas avoir une critique générale sur l'usage des enfants du numérique. En gros, les gens vont s'écharper sur est-ce qu'il faut l'interdire à 12 ans ou à 16 ans ou à 8 ans ou je sais pas quoi. C'est pratiquement la seule que tu entends sur les effets sociaux. Et ça, on les partage, tu vois, les effets sociaux de ce que ça peut faire à la capture de l'attention, d'interactions diverses. Donc on les partage et voilà. Mais tu vas peu entendre la critique de la matérialité dans l'espace public, mais par contre, ils portent, ça va rejoindre la critique des grands projets inutiles imposés, la critique de l'aménagement du territoire pour ce qui est des data centers ou des infrastructures qui vont prendre de l'espace et qu'on va voir. Pour la réouverture des mines, on est un petit peu concerné en Ariège.
Ouais, avec
projet de réouverture d'une mine de tungstène, si c'est néo-métal, d'or, si c'est Coforgia ou Salate, ou Variscan d'ailleurs, parce que maintenant la troisième société est revenue sur le tapis. Mais donc que ce soit la réouverture des mines, les usines, les data centers, là tu vas avoir une critique qui va pouvoir porter, parce que c'est l'espace qui est à côté de chez nous, alors on s'en préoccupe. Et donc ouais, on a trouvé que partir de la matérialité c'était facile. Critiquer le numérique en tant que tel a été très compliqué, les moins, a été très compliqué notamment parce que les premiers qui l'ont fait étaient renvoyés à des caricatures. Si tu veux la fin d'Internet, tu veux le retour à la bougie. Et aussi, je pense, parce que c'est une critique partielle. Donc je pense que, voilà, je ne sais pas, dans les milieux militants ou dans les milieux qui vont se poser la question du travail, critiquer juste Internet, ce n'est pas suffisant. Critiquer juste le smartphone, ce n'est pas suffisant. En fait, en vrai, la plupart des gens n'ont pas le choix dans leur travail d'employer ce genre de machine. Et la plupart d'entre nous avons de toute façon un ordinateur. Donc critiquer l'étape d'après n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Guillaume Pitron, qui a produit un bouquin sur la consommation de matières nécessaires pour produire certains objets, la guerre des métaux rares, ça s'appelait. On n'est pas d'accord avec ses conclusions, hein, Pitron, hein, parce que du coup, la conclusion, c'est de produire ça chez nous, pour ne pas polluer et exploiter les gens ailleurs, c'est d'assumer le niveau de confort que l'on souhaite, un terrain on qu'on n'a jamais choisi, mais au passage, j'en profite pour glisser que pour produire une puce de 2 grammes, il faut 20 kg de matière minérale. Pour produire un ordinateur de 2 kg, il faut environ 800 kg de matière minérale. C'est ça en termes d'extraction que ça représente. Je n'ai pas les chiffres en termes d'eau. C'est énorme de toute façon. Et là, on parle d'un objet, hein, donc il faut imaginer multiplié par des millions.
On fantasme un monde complètement vert, mais c'est un monde hors sol. La transition énergétique, c'est une transition qui est technologique et qui ne propose uniquement que des remèdes technologiques à des problématiques qui ont été eux-mêmes générées par les technologies. Cette transition-là génère autant de nouveaux défis que les solutions qu'elle apporte. Tant qu'on n'aura pas touché à cette question fondamentale qui est celle de nos modes de vie, de nos modes de consommation, on ne réglera pas les problèmes que cette transition prétend pouvoir régler.
Sur le plan de la critique voilà, plus générale, se passer d'une technologie, s'auto-limiter, ça c'est des questions qui sont globalement plus complexes. T'as le choix individuel, ça ne sert pas à grand chose, et puis tu as choisir collectivement de se passer de quelque chose, ben, en vrai, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire changer de système social, de système économique, de système de production, si tant est qu'ils doivent être séparés du reste de la vie. Enfin, c'est pas simple, et c'est pas simple surtout de le traiter de manière unique et séparée du reste.
Ouais, être projeté un peu la logique d'adaptabilité, être vraiment sur une critique de fond. Justement, ce monde-là qu'on nous propose, il est souvent présenté comme inévitable. Est-ce que tu penses qu'on a encore la possibilité, de manière collective, d'en discuter, ou alors le débat nous est réellement confisqué?
Il y a une super phrase de Célia Isoard qu'on a repris à notre sauce sur plein de tracts et compagnie avec le comité, parce qu'on l'aime beaucoup, c'est le débat autour de la technologie n'a jamais eu lieu. Et bon, les sociétés débattent rarement des technologies qu'elles mettent en place. Pour te répondre plus directement et sans cette histoire de citation, on peut discuter de tout en démocratie, c'est le propre de notre système politique, mais avec quels effets, Ça, c'est autre chose. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en effet, c'est possible d'ouvrir des espaces de débat, que ça ne porte pas grand-chose et qu'on n'arrive pas à freiner, ou qu'on a du mal, en tout cas, à freiner l'arrivée de telle ou telle chose. De plus, il y a des organismes constitués pour faire en sorte de faire croire que le débat public existe. Ouais. Des sociologues qui bossent sur l'acceptabilité sociale des technologies, notamment depuis les années 80 sur les OGM et compagnie. Donc ça c'est des champs qui sont récupérés, utilisés par le pouvoir depuis des dizaines d'années pour faire croire qu'il y a un débat autour de ces sujets et puis pouvoir présenter des arguments. Et puis en fait, in fine, la marche de l'industrie continue et si elle a un nouveau champ qu'elle peut, sur lequel elle peut se déployer, elle va le faire.
Il faut dire que souvent, ce qui nous est présenté comme moderne est automatiquement associé au progrès. Aussi là, la stratégie opère des pouvoirs parce qu'il y a toujours une vraie croyance en la technologie. À partir de quand cette foi moderniste empêche-t-elle de se demander si ce qu'on nous propose en fait améliore réellement nos vies? C'est quoi la modernité? Est-ce que c'est un progrès pour les vies humaines ou une adaptation permanente à des systèmes techniques?
Donc pour la modernité, moi j'ai l'impression qu'il y a te débarrasser des transcendances de la société d'avant, je sais pas, royale ou divine, pour une société qui va aller de l'avant, qui va se déployer, augmenter, tu vois, son profit va augmenter, sa population va augmenter, tout ce que tu peux avoir derrière la modernité, mais c'est très flou. Et postmodernité qui pète complètement le fait que tu pourrais avoir une direction ou des grands récits, qui le pète philosophiquement, hein, parce que en fait, je pense que le libéralisme a quand même ses grands récits. Mais aussi que modernité, ça peut aussi être un mot valise qui veut dire jeune et dans l'air du temps et stylé.
Ouais, tout à fait, un truc un peu de cycle, de renouveau en tout cas.
Ouais. Est-ce que la modernité, c'est un progrès pour les vies humaines ou une adaptation permanente des systèmes techniques? Moi, ça me donnait envie de me demander si le progrès social et le progrès technique sont corrélés. Et qu'est-ce qu'on entend par progrès social? Et est-ce qu'il y a besoin d'un progrès social pour que les humains aillent mieux? J'ai l'impression que nos systèmes techniques, aussi loin que tu reviennes dans le temps, nos systèmes techniques ont évolué, changé et ont modifié les sociétés, les cultures qui les ont découvert, mis en place. Tu vois, tu prends le feu, tu prends le charbon, tu prends la bagnole, à chaque fois tu es sur des techniques, pas des technologies, un procédé pour arriver à un objet, un objectif en tout cas, qui va modifier la vie. Tu vas avoir des anthropologues marxistes qui te disent que la complexification des sociétés est égale au progrès. La progression de celle-ci permet une amélioration des conditions de vie des gens. Je pense que quand tu regardes, et tu peux te poser la question entre notre autonomie, notre liberté. On est dans des systèmes dans lesquels on a une liberté individuelle très forte, du point de vue de ces dépendances humaines. On a plutôt assez peu de dépendances aux autres humains. Par contre, on a troqué ces dépendances humaines pour une dépendance totale à des structures qui nous dépassent complètement et qu'on ne maîtrise plus du tout. Donc on a perdu toute autonomie sur la direction de nos sociétés, de nos groupes, de nos vies. Là où des systèmes techniques plus simples, et je pas pour le retour à la bougie, ni au feu, Marcassite silex, mais là où des systèmes plus simples permettaient de maîtriser, où tu maîtrises la totalité des chaînes de production, tu maîtrises aussi vachement plus comment tu mènes ta vie et celle du groupe. Mais globalement, les individus, tu documentes ça et quand tu vas le regarder de près, ont très peu de marge de manœuvre et sont très pris dans des dépendances individuelles et des schémas de fonctionnement de groupe qui pèsent très très lourd quoi, sur les individus. Donc en ce sens-là, la complexification des sociétés, ouais, ça libère, mais je mets des guillemets en fait, parce que déjà, ça libère pas tout le monde, ça nous libère pas du travail, ça nous a enfermés dedans, dans un certain mode de vie. Et puis, si on regarde notre confort, c'est quand même pas celui de la plupart de la population mondiale. Et ça le rend presque caduque à mes yeux. C'est le fait qu'un certain confort moderne dans notre société occidentale repose sur l'exploitation de millions de personnes enfermées dans des usines ou enfermées à l'extraction de minerais autre part sur la planète, suffit déjà à rendre caduque le fait qu'il soit souhaitable.
On cherchera nos remèdes à la cisaille. On cherchera nos remèdes à la cisaille. À la cisaille. À la cisaille. À la cisaille. À la frappe, on cherchera nos remèdes. À la frappe, on cherchera nos remèdes. À la frappe, à la frappe, à la frappe, à la frappe. À la hache, on cherchera nos remèdes. À la hache, on cherchera nos remèdes. À la hache, à la cisaille. À la frappe, à la cisaille. À la hache, et Claude Esclandre renverse son inertie.
Ouais, j'ai l'impression, comme tu le soulignes, ça crée vraiment des groupes privilégiés, alors, d'un point de vue des territoires et également dans nos sociétés. Les groupes humains ne sont plus solidaires, n'arrivent plus à voir du sens commun. T'écoutant, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une perte de sens d'un coup.
Pour moi, elle est super compliquée cette question, parce que la perte de sens, c'est aussi une perte de la transcendance. Tu parles de sociétés qui, globalement, croient en des choses qui sont irrationnelles. Enfin, tu vois, l'arrivée de la modernité, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais... c'est quand même l'avènement de la rationalité pour prendre des décisions, de la raison pour prendre des décisions. Raison qui est forcément partielle, mais qui ne se reconnaît pas comme telle. D'autres groupes humains qui ne vont pas avoir cette complexification technique vont penser ou croire dans des systèmes. Au demeurant, ils se pensent en général pas comme étant sur une marche vers autre chose, mais plutôt dans une sorte de renouvellement. Ils voient une continuité avec ce qu'il y a avant et un retour du. Tu as plein de cosmogonies comme ça qui vont faire des rites pour que rien ne change, pour que tout se reproduise d'une année sur l'autre comme avant, ce qui est profondément opposé à ce que notre société peut véhiculer comme idée de fond. Je suis géologue sur un site préhistorique de base. Et du coup, je me suis intéressée aussi au fonctionnement d'autres sociétés. Et donc, t'as plein de gens qui documentent ça, des ethnologues, des économistes, sociologues. T'as des gens qui font tout ça en même temps et qui documentent via l'ethno des sociétés ailleurs dans le temps et dans l'espace. Donc, ailleurs du monde occidental. Je parle de sociétés qui, pour la plupart, existent plus ou de manière très modifiée aujourd'hui, qui ont été documentées au contact entre les Européens et toutes ces sociétés au XVIIe et XVIe et XVIIe siècle. Quoi. Mais cette question de la transcendance, elle écrase les individus. T'as aussi ça. C'est un truc où t'as très peu de marge de manœuvre pour modifier ta vie. Enfin, on parle même pas de la place des femmes dans ce type de société. Hein. Le patriarcat est pas nouveau. Et donc l'entérinement de la place des individus qui doivent être à un endroit et pas à un autre est très très fort aussi là-dedans.
On cherchera nos remèdes à la cisaille. On cherchera nos remèdes à la cisaille. À la cisaille. À la frappe. À la cisaille. À la hache. On cherchera.
Et même non, la technocritique, plus globalement, est renvoyée à quelque chose de très rétrograde parce qu'elle ne va pas, elle ne suit pas le cours de l'histoire, pour le dire un peu vite. Et quant au fait que ce soit suspect de critiquer ça de manière plus large, sans parler uniquement de technocritique, enfin, tu vois, à chaque fois que tu critiques quelque chose que tu mets en évidence, quelque chose qui fait fonctionner notre société, je pense que t'es suspect. Si tu critiques la famille, tu critiques l'État, tu critiques la prison, l'école, tu critiques le système numérique ou la complexité trop importante de nos sociétés ou un certain type d'électrification ou toute l'électrification, forcément tu viens critiquer la façon dominante de fonctionner de ce monde et de faire du profit. Alors qu'est-ce que ça peut provoquer en réalité? Je suis pas convaincue que la critique porte beaucoup de fruits, mais on continue à la faire, hein, c'est nécessaire. Mais oui, sait-on jamais, elle pourrait avoir des effets et mener à des actions ou des réactions. Le problème, je trouve, que maintenant, quand tu le fais, tu as une nouvelle catégorie à l'arsenal de ceux qui causent, à la radio ou au gouvernement, c'est de te faire taxer de terroriste ou d'éco-terroriste. Voilà, toute critique un peu conséquente, parfois juste en mots, mais aussi en gestes, va te faire rentrer dans cette catégorie de terroriste très facilement, avec ce que ça signifiait en termes de moyens répressifs qui seront mis en œuvre pour y faire face. Ça me semble être la spécificité du moment, c'est que quelle que soit ta critique, si elle est un peu conséquente, elle peut se retrouver face à cette attaque-là.
Et le terme d'écoterrorisme s'impose dans le débat public bien plus tard, en octobre 2022, après les manifestations contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline.
Et il y a eu un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'écoterrorisme.
Là encore, le mot est affilié à un vocabulaire policier.
J'ai lu qu'effectivement en France, dans un certain nombre de revues de sécurité intérieure, le terme d'écoterrorisme est arrivé sous la plume d'un certain nombre d'auteurs. Ce sont des cadrages, on va dire, qui viennent soit du ministère de l'Intérieur, soit du renseignement, soit de la police.
Contrairement à l'infraction de terrorisme, définie par l'article 421.1 du Code pénal, l'écoterrorisme n'est pas une notion juridique. Certains notent que pour les militants écolos dans leur ensemble, pas seulement les plus radicaux, la portée du mot a plusieurs conséquences négatives.
D'une part, c'est de justifier, voire d'encourager la violence qui peut être exercée contre ces militants environnementaux. France Nature Environnement avait recensé plus de 50 faits de violence ou d'intimidation envers ces militants depuis 2016. Et la deuxième conséquence, c'est de justifier également une répression policière et judiciaire par l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques spéciales de renseignement, qui peuvent être des écoutes téléphoniques, l'aspiration de données à distance sur des téléphones portables. Donc le terme écoterrorisme est un terme qui n'est pas juridique, c'est un terme qui est politique.
Et d'ailleurs, un rapport spécial des Nations Unies appelle plusieurs États à contrer les récits qui présentent les défenseurs de l'environnement comme étant des criminels. Car cette tendance se retrouve au niveau européen par des termes comme ayatollah vert, djihadiste vert, taliban vert.
Très clairement, à la fois pour dépolitiser, criminaliser et exclure du débat, parce que avec ces gens-là, on négocie pas.
Et le numérique a aussi permis, je ne vais pas te dire une poursuite du même, mais pour ce qui est de l'intensification du travail, par exemple, il y a une tension de fond pour augmenter ta plus-value, ton profit, à l'intensification du travail de toute façon. Oui, en effet, là, les témoignages que tu as de divers endroits, une copine par exemple qui travaille à France Travail, ça a le mérite d'être clair, c'est écrit sur la boîte. Cet ami te décrit que donc les salariés se transforment en annexe de la machine et se retrouvent à faire des opérations de vérification, à faire des micro-tâches qui ont été découpées pour pouvoir être gérées par des algorithmes. Donc leur boulot devient plus du tout la gestion d'un dossier de A à Z, mais juste la validation d'une petite tâche qui doit être vérifiée humainement, et c'est l'algorithme qui va poursuivre le reste du travail. Bon, en vrai, ça reste le travail, ça reste l'exploitation, mais ça l'intensifie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Une journée d'aide à domicile aujourd'hui, vous savez, les personnes qui vont s'occuper des petits vieux et des petites vieilles laissées tout seuls dans leurs appartements, qui, quand on coupe une antenne relais, se retrouvent, oh mon Dieu, tout seuls et sans télé. Bon, l'aide à domicile, d'il y a 20 ans, elle a son circuit, elle a une certaine autonomie dans l'organisation de sa journée de boulot. Quand elle part de chez elle, elle a un planning et elle doit passer voir un certain nombre de gens. C'est le travail, c'est l'exploitation, mais elle peut s'arranger, elle a des petits interstices. Aujourd'hui, avec le téléphone que les filles appellent le petit gendarme, tu bipes à chaque intervention, tu as un QR code chez les gens qui te permet de biper quand tu es arrivé, qui te prévient 5 minutes avant de devoir repartir, qui est une bipeuse, mais dans ta poche, et qui te trace évidemment parce qu'il y a un GPS dessus. Donc ouais, ça change quelque chose. Ça change quelque chose à ce qu'était le travail. Après, voilà, une fois dit ça, ça change pas fondamentalement non plus le travail. Pour les classes sociales, mais en termes d'usage, tu as une protection des classes supérieures.
Ouais, comme tu dis, ils s'en protègent en plus.
Bah oui. Même ils en protègent leurs enfants. Ceux qui le fabriquent, ouais, protègent leurs enfants. Ils savent très bien que ça n'en fera pas des bons dirigeants s'ils ne sont pas capables de se concentrer plus de 2 minutes. Mmh. Par contre, les gamins des prolos, globalement, on s'en fout. Voire même, on leur fout des terminaux dans les mains le plus vite possible. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'il y a des ordis mis à disposition des gamins dans certaines zones qui ne sont pas forcément les plus favorisées. Probablement pas avec un esprit complotiste en pensant que ça va provoquer quoi que ce soit, mais en pensant qu'il faut que les gamins sachent s'en servir pour pouvoir être de bons techniciens, de bons travailleurs, quoi.
Est-ce que cette critique-là accepterait d'imaginer un progrès qu'on considérerait peut-être plus sobre, plus lent, choisi si possible collectivement? Un progrès qui passerait peut-être par moins de technologie plutôt que toujours plus.
Une façon de te répondre, ce serait de te dire que je pense qu'il faut vraiment distinguer progrès social et progrès technique. Qu'est-ce qu'on veut pour une société? C'est quoi les valeurs qu'on met derrière? Est-ce que c'est le fait de s'auto-limiter? Est-ce que c'est avoir de l'autonomie collectivement? Des dépendances personnelles, mais pas trop fortes, et pas de dépendance à des systèmes techniques? Je pense que dans le progrès technique, même s'il est plus lent, il y a le toujours plus. Il y a le toujours plus de consommation, de ressources, d'énergie, de travail humain. En ça, le progrès peut aller uniquement vers une augmentation de la pression sur les ressources, sur les humains, sur le travail humain. Et une amélioration des conditions sociales, pour moi, ce serait de choisir nos systèmes techniques, non pas revenir en arrière ou je ne sais quoi, mais choisir ceux qu'on est capable de maîtriser collectivement, y compris des chaînes de production probablement un peu complexes. De toute façon, ça, enfin, il ne m'appartient pas de dire lesquelles seront choisies, mais qu'on les choisisse en tout cas, qu'on puisse le faire à la base, et que surtout que ce soit les gens qui passent une partie de leur vie à les faire fonctionner ou à produire certains objets qui le décident. Ce serait les conditions d'une amélioration des conditions de vie sociale. De vraiment avoir la main sur la décision de l'ouverture de telle ou telle chaîne de production. Et pour quels objets aussi, évidemment, toujours pareil. Enfin, c'est pourquoi on fait les choses, à quelle fin. Donc je ne sais pas si je l'appellerais progrès, mais nécessairement, ce serait plus lent. J'espère que ce serait plus sobre, et plus sobre en ressources, plus sobre en activités contraintes, si tant est qu'elles restent contraintes. Et par moins de technologies, bah oui, ça irait de soi. Enfin, si on veut les maîtriser, elles seront probablement moins complexes. On ne pourra pas faire peser ça sur des ressources qui sont à l'autre bout de la planète. Pour reparler du numérique aujourd'hui, produire des batteries au lithium pour la population uniquement de la France nécessiterait de vider les réserves mondiales en lithium. Et dans une bagnole, il y a beaucoup plus que du lithium. Il y a une cinquantaine de minerais rares, de métaux rares différents, qui géologiquement n'ont pas poussé en France, enfin, se sont pas formés en France, ou ne sont pas présents sur le sol de la métropole. Du coup, ces chaînes d'extraction et ces chaînes de production, elles sont nécessairement mondiales. Et donc, si on choisit d'être plus respectueux tout court des gens ailleurs sur la planète, et qu'on choisit de faire les choses que l'on peut faire, on sera limité de fait par ce qu'on a chez nous. Et ben ouais, ce qu'on a chez nous, ce sera de l'acier, du charbon, du cuivre, du zinc. Mais qu'on en discute, qu'on ait ce débat, et enfin voilà, qu'on ait ce débat, et plus que ça, qu'on ait la main sur le fait de produire ça comme on le souhaite.
C'est tout non, assez même. T'es ça y a sans ou saviez, t'es guerre des fesses. Dienta ya qui un tel ou ventre croit des luttes. C'est d'une assez des sambas, des hypercutes sous la ristée et épais sous des mounts. Etrape sa dérivage, etrape sa dérivage. Qui ont trouvé un groupe.